Europe 1, 9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1 et ravi de vous retrouver pendant 2 heures pour faire le tour de 2 questions. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
La parité d'abord, êtes-vous pour la favoriser dans tous les domaines de la société? Est-ce qu'on doit tout faire pour promouvoir l'égalité des sexes? Mais je dois ajouter à tout prix, de la politique à la culture, de la santé à l'éducation. La secrétaire d'État en charge de cette égalité, Marlène Schiappa, veut un quota de femmes de 50% au moins dans tous les domaines. C'est une problématique mondiale et pas seulement française. Cette discrimination positive va-t-elle pour vous dans le sens de l'histoire? Eh bien, vous venez réagir, mesdames, messieurs, le standard est ouvert sur le sujet.
Le 39-21, 50 centimes la minute.
Et puis à 10h, on va replonger dans l'univers de Marcel Pagnol, avec les femmes des années 30, 40, 50 précisément. Un documentaire magnifique lui est consacré ce soir sur France 3, raconté par Fabrice Luchini. On redécouvre ce parleur insatiable dans ses textes, dans les films qui ont inspiré aussi des générations d'écoliers et d'écrivains. Un internel enfant qui rêva d'offrir cette Hollywood provençale à sa région natale. C'est le sommaire jusqu'à 11h. Sur Europe 1. Bien.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec nos invités que je vous présente, et pour commencer, Réjeanne Sénac, directrice de recherche CNRS à Sciences Po, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes auteur de L'égalité sans condition, osons imaginer et être semblable. On va voir ce que c'est que l'égalité, que l'équité aussi en la matière. Vous avez publié cela aux éditions Rue de l'Échiquier il y a quelques semaines. D'abord, un petit point de circonstance. Il y a 33 millions de femmes en France, il y a 31 millions d'hommes, mais pas de parité, vous le savez bien. Elle est au fond souhaitable, c'est un débat de fond peut-être qui va tenir notre échange du jour jusqu'à 10h. Mais je vais d'abord vous demander votre sentiment, Réjeanne Sénac, philosophique un peu. Est-ce qu'on doit contraindre encore les différents domaines de la société pour que la place des femmes soit plus équitable, justement?
Alors, si l'objectif, c'est que les femmes et les hommes aient les mêmes opportunités, oui, et soient traités de la même manière, on voit bien qu'on a été obligé, et que je pense qu'on l'est encore, de mettre en place des actions qu'on dit positives, en tout cas des contraintes. On a bien vu qu'on aimerait que dans ce pays qui se dit le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, nous n'ayons pas besoin d'en passer par là. Et pourtant, qu'est-ce qu'on diagnostique, hein, quand on regarde les chiffres? On diagnostique le fait que les femmes et les hommes ne sont pas aux mêmes places, qu'il y a une division du travail entre les femmes et les hommes, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
Oui.
Et pour le dire rapidement, le premier quota qui a été mis en place et qui était de l'ordre du 50-50, avec cette logique qu'en France, étant donné qu'on est le pays de l'égalité, il faut porter du 50-50, ça a été en ce qui concerne les mandats et les fonctions électives, hein, pour les élus. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvait dans les années 90 en France avec la même proportion de femmes députées et sénatrices qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire premier vote des femmes en 44-45.
Donc en 50 ans, ça n'avait pas évolué.
5%. Oui. Donc je veux dire, il faut quand même regarder la réalité en face et se dire qu'avec un héritage qui est celui de l'exclusion des femmes, du droit de vote et d'éligibilité, mais aussi des droits tels que celui de choisir son emploi, de maîtriser ses biens, voilà. On a cet héritage-là qui est encore assez récent, hein, puisqu'il y avait des inégalités juridiques jusque dans les années 80. Mmh. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on en soit encore là et qu'on doive passer des lois qui sont des lois contraignantes. C'est dérangeant par rapport à notre conception un peu idéale de la France, mais je crois que malheureusement c'est nécessaire.
C'est-à-dire qu'il faut rattraper aussi l'histoire, hein, qui a pris du temps pour inclure les femmes dans la société, avec des contraintes législatives, avec des contraintes de pénalité, puisque vous parliez de parité en politique. Combien de partis ont préféré justement mettre au pot et payer des pénalités plutôt que d'avoir le nombre de femmes équivalent à celui des hommes sur les listes et dans leur parti?
Oui, il y a en réalité un manque
vicieux
à gagner sur la dotation financière publique par rapport aux législatives. Par rapport au scrutin de liste, ils n'ont pas le choix, sinon la liste n'est pas enregistrée à la préfecture. Mm-hmm. On le voit pour les municipales, les régionales, maintenant les départementales aussi, où on a un binôme, les européennes. Mais quand ils ont le choix, en effet, ils restent sur de vieilles habitudes, hein, de reproduction des élites. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas la seule solution et que ça ne sera sans doute pas suffisant.
Est-ce que c'est de l'affichage? De dire que, d'abord, c'est un problème mondial. Elle s'est exprimée au congrès des femmes à Mexico, Marlène Schiappa, en disant qu'il y a 52% de femmes dans l'humanité. Il est normal qu'au niveau mondial, nous portions ce quota à 50% des femmes et nous allons commencer en France. Ce sont des grands mots. La loi ne pourra pas contraindre à cela dans tous les domaines de la société. Donc on est quand même dans une posture un petit peu de communication.
Alors, c'est vrai que si on s'en tient à dire on va féminiser les élites et on va faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, sans réfléchir aux causes de l'exclusion des femmes,
c'est ça.
Mais aussi des personnes qui viennent de ce qu'on appelle les minorités sociales, c'est-à-dire les personnes qui sont des classes populaires, hein. On voit bien, il n'y a pas d'ouvriers ou d'employés au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais aussi les personnes d'origine territoriale ou ethno-culturelle, raciales différentes, et ce qu'on appelle post-coloniales. Donc, pour essayer de comprendre pourquoi on en est là, si on considère, si on n'est pas sexiste, pour le dire très clairement, on considère que les femmes ont les mêmes qualités que les hommes. Elles ne sont pas moins douées que les hommes en maths, en sciences dures, et pourtant elles s'orientent différemment. Elles ne sont pas moins douées ou elles n'ont pas un moindre rapport à l'autorité ou au pouvoir. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elles sont sous-représentées aussi bien dans les élites économiques, politiques ou dans les sciences dures ?
Ou différemment payées. À poste égal aujourd'hui, on a 9% d'écart encore entre les revenus des hommes, les revenus des femmes, pour des compétences égales et pour des postes égaux.
Tout à fait. Donc ce qui est important, et vous le disiez, c'est, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures contraignantes. Mais dans le même mouvement... il faut travailler sur la structure qui fait qu'il y a ces inégalités au final. C'est-à-dire que si on ne travaille que sur la fin de la course, on ne comprend pas et on ne permet pas de remettre en cause les raisons pour lesquelles on arrive à cette fin de course.
Et on va parler de ces mécanismes-là, les fameux plafonds de verre qu'on trouve un petit peu partout aussi, les réorientations, les changements de carrière, le temps partiel notamment. Je vous donne juste un exemple de cette évolution lente, mais qui existe quand même puisqu'on parlait politique. Le nouveau Parlement européen, 751 élus, une part de femmes qui a doublé en 40 ans de législature quand même. Elles sont 36% aujourd'hui contre 16% de femmes en 79, pour première élection au suffrage universel direct. Le tour de la question dédié à la parité dans tous ces États, la fameuse égalité, équité, homme-femme, faut-il la pousser à un niveau supérieur, c'est-à-dire relever à 50% les quotas de femmes dans tous les domaines? On vous pose la question ce matin sur Europe 1, Julie.
Et on fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 colis en même temps.
Polyvalente, Julie. Hein.
Oui, mais pas être une femme selon Sardou.
Pourquoi ?
Mais il faut l'écouter jusqu'au bout, la chanson, quand même. C'est tout ce qui...
Bon, on n'a pas le temps.
Toutes les images.
Mais il dit bien les choses, quand même.
J'imagine que c'est un second degré, quand même. Ça ne peut pas être du premier degré.
Oui, mais ça dit des choses aussi sur la volonté des femmes, justement, aujourd'hui, d'être un peu l'égale des hommes.
On ne peut pas être l'égale des hommes.
De
on
n'est
pas pareil, on n'a pas la même vie.
Je suis d'accord là-dessus. Mais alors, qu'est-ce que vous considérez
On peut... Moi, la parité, non. À tout prix, non.
Parce
c'est pas possible.
Parce que vous considérez qu'on est programmé.
On est programmé
pour être mère de famille, pour travailler davantage
exactement.
À la maison.
Il y a une part de la maison qu'on ne veut pas laisser tomber d'ailleurs. Hein. C'est pas de l'esclavage, rien du tout. On a envie d'être à la maison, de s'en occuper, de s'occuper des enfants, des petits-enfants. Enfin...
Oui, je suis un peu Julie, moi, dans cette ligne-là. Réjeanne
Sénac,
directrice de recherche CNRS à Sciences Po. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça fait partie aussi peut-être des. Même si ce sont des carcans moraux, mais pour lesquels on n'arrive pas à une parité aujourd'hui. Et idéal.
Alors c'est très intéressant d'ailleurs les termes que vous utilisez et qui sont ceux qu'utilisent les Français quand on va les interviewer, hein, ce que j'ai fait. Vous dites on ne peut pas être égal parce qu'on n'est pas pareil.
On n'a pas la même vie aussi.
Et on n'a pas la même vie, alors c'est différent. C'est-à-dire
oui,
que
c'est
la vie, c'est une construction sociale
exact.
Et le fait de ne pas être pareil, voilà. C'est intéressant parce que le terme égalité, c'est un horizon politique. C'est l'idée que les individus, quelles que soient leurs caractéristiques, sexuées, sociales, ethnoculturelles, doivent avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités, voilà. Doivent être donc traités de la même manière. Ou, pas forcément, on voit dans le fait de mettre en place des politiques publiques, des actions positives, c'est-à-dire que, comme dans les zones d'éducation prioritaires pour l'éducation, quand on considère qu'il y a moins de chances, l'État compense, hein, c'est les bourses sociales, voilà. Bon. Donc ça a toujours existé. Quand vous dites on n'est pas pareil, on n'a pas la même vie, donc on n'est pas égaux, pour moi, vous mettez ensemble deux registres très différents. Le fait d'être, on est individuellement tous différents. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension ontologique, ce que l'on est. Que l'on soit une femme, un homme de telle origine, on est un entrecroisement de différences. Donc pour moi, l'unicité, elle est la singularité, elle doit être du côté individuel.
Mais
il ne faut pas que le fait d'être une femme...
Je vais vous donner un exemple, Réjeanne. 82%, et vous connaissez mieux que moi ces chiffres, 82% des temps partiels sont aujourd'hui occupés par des femmes. Au boulot. C'est bien que ces femmes-là veulent quand même, ou n'ont pas le choix, je ne sais pas, c'est là que vous devriez nous éclairer, veulent conserver quand même justement une part de leur action maternelle, de femmes à la maison, etc.
Alors,
c'est-à-dire qu'on conjugue quand même le temps professionnel, le temps familial, c'est inscrit dans les chiffres aujourd'hui en tout cas.
De la même manière que trois quarts des tâches ménagères et domestiques sont encore assumées par les femmes, mmh. alors qu'elles ont un taux d'activité, qu'elles sont impliquées dans la vie professionnelle de manière importante en France. Mais dans ce que vous dites, ce qu'il y a de difficile à démêler, c'est ce que vous pensez comme une logique de goût, de choix personnel, et puis les normes sociales. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même qu'en effet, il peut être valorisant pour les femmes de faire ce qu'on attend d'elles depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire d'être de bonnes mères et de bonnes épouses. Alors qu'on va attendre du père plutôt qu'il pourvoie financièrement aux revenus. Donc,
oui, ça c'est un cliché démodé quand même.
Oui, mais c'est un cliché démodé, mais il y a cette répartition où d'un côté les femmes sont plutôt du côté du soin à l'autre.
Parce aux qu'elles enfants. Savent mieux le faire aussi.
Alors,
que les
vous
hommes.
En êtes persuadée, ça ah, on les oui. a élevées pour ça. Quand vous voyez le rapport aux jouets, donc là il y a toute une construction sociale qui est pour moi pas de l'ordre de l'émancipation, ni individuelle ni collective. Quand vous voyez encore au 21e siècle qu'il y a des jouets hyper stéréotypés, on voit bien que c'est pas une question d'hormones ou de biologie.
Il n'existait pas dans les années 40-50 encore.
Mais on voit quand même que.
C'est arrivé avec la société de consommation.
Voilà, on va dresser les filles, on va leur apprendre.
Oh, dresser.
Éduquer, mais il y a une dimension qui n'est pas de l'ordre de la liberté.
Oui,
on crie toutes et tous à la liberté individuelle et dans le même mouvement, on accepte quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'émancipation. Et pourquoi est-ce que les pères, ils ne pourraient pas aussi être attentionnés, être dans le soin des enfants? Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui contraint.
Ils le sentent après dans la vie. Enfin,
qui contraint aussi bien les hommes que les femmes.
Insensible.
Et puis je pense qu'il y a quelque chose d'autre à prendre en compte. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est que ça a des répercussions négatives sur les femmes en termes d'autonomie financière, de choix des métiers, de valorisation des carrières. Donc, ça a pas, c'est pas neutre en termes d'implication concrète. Et vous le disiez, hein, les femmes gagnent en moyenne un quart de salaire en moins que les hommes. Mmh. À poste égal, elles ont
9% d'écart.
Voilà. Donc, je pense que c'est quand même important.
Ça, c'est pas possible, justement, et vous avez raison de le souligner. Comment on en est arrivé là, par exemple? À poste égal, compétences égales, parcours équivalent. Comment se fait-il qu'en France, en 2019, les femmes soient 9% moins payées que les hommes?
Ça, c'est un vrai problème.
Ça, c'est,
ça, c'est pas normal.
Mais c'est un problème qui naît de tout le reste. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'on élève les petites filles en leur permettant moins de liberté que les garçons, dans le rapport à l'espace, dans tout, qu'on a des attentes différenciées pour les filles et les garçons, elles sont elles-mêmes, elles ont moins confiance en elles que les garçons. Mmh. Elles vont donc demander souvent un premier salaire moins élevé.
C'est-à-dire que les DRH jouent de ça.
Mais voilà, alors c'est pas leur responsabilité aux filles, c'est la structure qui est comme ça. Et ces 9%, c'est clairement de la discrimination. C'est-à-dire c'est du traitement illégitime. Hein. C'est illégitime de les payer moins. Donc tout ça doit être vu comme un système. Et comment se donner les moyens de dépasser ça? Et de quand vous parliez d'équité, on peut l'entendre au sens de justice, d'être vraiment juste et de être dans une logique de rémunération vraiment juste et de conception aux autres.
Complètement.
Et là, ça demande quelque chose qui est beaucoup plus profond en termes d'éducation, mais aussi, et on parlait de la prise de position, et je serai très rapide, de la secrétaire d'État en charge de ces sujets. C'est bien pour moi de mettre en place, d'avoir une cohérence de quotas, pourquoi pas, et ça sera utile. Mais il faut aussi se donner les moyens de lutter vraiment contre les inégalités salariales, de lutter contre les violences, puisque ça fait aussi partie des inégalités et ça exprime
violence
quelque chose.
Violence et harcèlement, voilà.
Violence et harcèlement. Et ça va demander aussi de l'argent. C'est, ça demande de l'implication, du courage et de l'argent.
Réjeanne Sénac, vous êtes avec nous. Une petite réaction, Julie?
Oui, sur Facebook, non, Hélène nous dit, mais ça va synthétiser un peu ce que vous dites. Pour moi, c'est non pour la parité à tout prix. La nature nous a... C'est plutôt... Elle est plutôt d'accord avec moi,
oui.
La nature nous a créés différents, c'est un fait, avec chacun nos forces et nos faiblesses. Et même au-delà du genre, il faudrait arrêter de vouloir agir dans un souci de parité et commencer à agir dans un souci de justice.
Alors, on se retrouve, c'est ce que vous dites, Réjeanne. Et je pense que Chantal, qui nous appelle d'Avignon, va être un peu sur la même ligne antidogmatique. C'est le terme qu'elle emploie et qu'elle va vous opposer dans un instant. À tout de suite avec vous, Réjeanne Sénac. On attend notre invitée Rebecca Amsalem qui fait les frais des embouteillages parisiens. Mais ça devient un classique. À tout de suite sur Europe 1.
La parité homme-femme est-elle applicable dans tous les domaines? Vaste sujet de conversation.
Oui, très intéressant. Le sujet, le débat est lancé depuis 9h avec Réjeanne Sénac, directrice de recherche au CNRS, auteure de L'égalité sans condition aux éditions Rue de l'Échiquier. Rebecca Amsalem va arriver dans un instant. Elle a fondé une newsletter, Les Glorieuses, qui est un collectif féministe et qui permet justement de voir dans tous les domaines de la société comment on peut faire avancer cette parité. Relever à 50% les quotas de femmes dans tous les domaines,
c'est cette égalité que souhaite Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge du sujet et de la lutte contre les discriminations. Nous avons Chantal qui nous rejoint en 39-21. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Et merci, bonjour à toutes. Merci de prendre la parole donc depuis Avignon pour vous positionner aussi sur ce sujet et dans ce débat. Quel est votre sentiment ?
Moi, j'ai le sentiment que c'est stupide. Excusez-moi, une position aussi dogmatique et idéologique, c'est stupide, mais surtout, c'est pas faisable. Parce que, prenez l'exemple des infirmiers ou des infirmières. Mmh. Tout le monde a, dans un souci d'égalité, tout le monde a accès aux études d'infirmiers ou d'infirmières. Mmh. D'accord ?
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer ? Une fille va arriver dans un service où on a besoin de 10 infirmiers, et elle arrivera à la 6e, on va lui dire, écoutez, on est désolé, on a assez de filles, maintenant on cherche 5 garçons. C'est ça qui va se passer ? Alors, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre au niveau des inscriptions autant d'étudiants filles, autant d'étudiants garçons ?
Alors, attention, on va vous rassurer, Chantal, peut-être, hein, Réjeanne, sur le sujet.
Alors, juste, je pense que la proposition de Marlène Schiappa ne porte pas sur les métiers. Elle porte sur...
Non, mais c'était un exemple.
Non, mais ça porte uniquement sur les conseils d'administration et de surveillance des entreprises.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui. Et sur aussi donc les postes de direction de la fonction publique. C'est déjà 40%. Il y a déjà un quota de 40% sur les nouvelles nominations.
Vous avez dit dans le titre du débat que c'était tous les domaines de la société.
C'est ce que souhaite Marlène Schiappa.
C'est uniquement, je pense, faire passer de 40% à 50% en termes de nomination. Donc là, c'est pas du tout une obligation sur tous les métiers. Voilà. Non, là je crois que il n'y a pas d'inquiétude là-dessus.
Le titre du débat n'est pas assez précis parce que moi j'avais compris que c'était dans tous les domaines de la société.
Alors attention, parce que c'est ce que souhaite Marlène Schiappa. Hein. Donc nous on est dans la ligne de la solidarité.
Je ne pense absolument pas qu'elle puisse faire ce type de contrainte en particulier sur l'orientation.
Donc elle est dans l'affichage.
Alors si c'est au niveau des inscriptions, après on va demander aux femmes aussi d'avoir autant de garçons que de filles à la naissance.
Vous avez raison, Chantal, on pousse à bout.
Non, mais vous avez raison, il y a une ambivalence sur la manière dont c'est présenté, même politiquement.
Oui.
Je comprends que vous ayez une incertitude là-dessus. Mmh. On peut le lire à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être celui des contraintes légales qui vont être mises et qui, à mon avis, porteront plutôt sur ce qu'on a appelé la loi Copé-Zimmermann qui concerne les conseils d'administration et les comités de surveillance des entreprises, des grosses entreprises, des entreprises cotées. Donc là, on va passer de 40% à 50%. Mmh. Et aussi sur donc, les postes de direction de la fonction publique. Ce que j'entends dans ce que vous dites, mais je crois que ça peut être un objectif de long terme, mais pas de court terme, vous dites que ça serait complètement totalitaire d'obliger à ce qu'il y ait autant de filles que de garçons dans tous les métiers. Mais peut-être, en se questionnant un peu nos habitudes, on pourrait se dire, mais pour quelle raison il n'y a que 25% de filles, par exemple, dans les écoles d'ingénieurs en moyenne, et 90% de filles dans tout ce qui concerne le soin à l'autre. Alors, vous avez parlé d'infirmiers,
oui.
On peut parler d'aide-soignante, et d'ailleurs, on le dit au féminin, on peut parler de sage-femme.
Oui, voilà. Parce que vous pensez qu'il y a des métiers pour lesquels on est plus programmé justement
Alors,
dans ce modèle social.
Alors, moi, je ne pense
social.
Pas du tout ça.
Vous constatez.
Je pense au contraire qu'on peut se poser la question du pourquoi. Mmh. Et moi, ma réponse, elle est de l'ordre, non pas de compétences naturelles différenciées. Je ne vois pas ce qui ferait qu'on serait plus doué pour être dans le soin ou dans l'enseignement et les hommes plus dans l'autorité. Moi, je pense que c'est de la construction sociale. Donc, l'horizon pour moi, si on est éduqué avec exactement les mêmes opportunités et pas de stéréotypes, je pense qu'on arrivera à quelque chose qui sera équivalent, alors pas à unité près peut-être, mais entre les filles et les garçons. Mais ça ne se décrète pas. C'est porté à travers une éducation à l'égalité, comme le font les pays nordiques, peut-être. Et les pays nordiques, c'est intéressant de voir que les enfants sont gardés à partir des 1 an dans des structures collectives. Et ils sont élevés pour ne pas être enfermés dans ces attentes différenciées. Par exemple, on amène les garçons à dire qu'il est normal que les garçons expriment leurs émotions et les filles, qu'elles peuvent
être... Ouais. Ça aussi, on le fait à la crèche. Les garçons, ils peuvent pousser des caddies et jouer à la poupée. Enfin, il n'y a pas d'éducation différenciée en France non plus.
On est quand même encore dans des attentes assez différenciées. Il suffit de regarder les manuels scolaires et on voit bien qu'on a quand même des modèles qui sont encore des modèles assez traditionnels.
Chantal, je peux rester avec nous. Je vais vous donner la parole dans une petite seconde, juste après la pause, ainsi que Neila qui nous rejoint et Rebecca M. Salem qui a réussi le tour de Paris en 1h15 et à laquelle je donne la parole dans un instant. Son collectif féministe et sa newsletter Les Glorieuses, elle publie cet ouvrage aussi aux éditions Ebec. À tout de suite sur Europe 1.
débat sur la parité qui continue.
Oh oui,
studio.
Si vous saviez ce qui se dit pendant la publicité, chers amis, mais c'est bien, c'est un débat animé sur la parité homme-femme. Est-ce qu'elle est applicable à tous les domaines? Car la communication de la ministre de chargée de l'égalité homme-femme est un peu ambiguë, c'est vrai. Elle demande de relever à 50% les quotas de femmes dans tous les domaines, ce qui fait réagir Chantal qui est encore avec nous, et ce qui fait aujourd'hui échanger Réjeanne Sénac, directrice de CNRS de recherche CNRS à Sciences Po, et Rebecca M. Salem, que je salue. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Vous qui publiez les glorieuses chroniques d'une féministe et qui avez une newsletter formidable, Les Glorieuses, qui est un collectif féministe, alors que vous diffusez toutes les semaines cette newsletter?
Oui, tous les mercredis. Les Glorieuses, c'est pas un collectif, j'aimerais beaucoup qu'on soit davantage.
Oui.
C'est une newsletter que j'ai lancée il y a 3 ans et demi maintenant.
D'accord.
Qui avait pour premier objectif de déculpabiliser les femmes sur un certain nombre de choses.
Oui.
Et ce que je voulais faire, c'était vraiment faire en sorte que les femmes puissent faire ce qu'elles voulaient. Et là où j'avais tort quand je l'ai lancé, c'est que je me disais que si les femmes n'osaient pas, c'est parce que il y avait un certain nombre de choses qui faisaient qu'elles se freinaient elles-mêmes. Et ce que je me suis rendu compte du coup avec l'évolution de mon féminisme, c'est qu'aujourd'hui il existe un certain nombre de normes sociales dans notre système qui fait que les femmes ne peuvent pas faire absolument tout ce qu'elles veulent. Donc l'objectif des Glorieuses, c'est à la fois d'accompagner les femmes vers cette émancipation et d'accompagner la société plus largement vers l'égalité, notamment grâce aux actions politiques qu'on mène.
Évidemment, vous avez été, vous le signalez, élevée dans une famille où le modèle de réalité était un peu biaisé parce que votre mère est chef d'entreprise, vos deux grands-mères étaient de fortes têtes, donc vous avez été un petit peu élevée à l'opposé d'un système normatif qui est un peu plus répandu peut-être en France aujourd'hui.
Je pense que finalement, c'est le cas dans beaucoup de familles quand même. Je pense que dans beaucoup de familles, j'entends dire que c'était les femmes qui régnaient en quelque sorte au sein de la cellule familiale.
Qui tenaient la culotte, comme on dit.
On va essayer de changer l'expression.
Pas forcément en étant chef d'entreprise, plutôt d'une dimension informelle.
Exactement.
Parce qu'elles sont quand même très minoritaires parmi les chefs d'entreprise.
Exactement. Donc, et c'est vrai que ça changeait davantage. Et puis, sans forcément parler de féminisme d'un point de vue théorique, on avait un peu un féminisme de cuisine, je ne sais pas si on peut dire, dire cette expression, mais les femmes se retrouvaient littéralement dans la cuisine et on parlait de toutes les choses entre nous qui étaient propres aux femmes.
Vous travaillez vraiment dans le concret pour faire évoluer cette parité de manière concrète dans les différents domaines de la société. Quand vous entendez Marlène Schiappa parler de relever à 50% les quotas de femmes dans tous les domaines, comment vous réagissez?
En fait, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et puis, je pense que la mission du Haut Conseil à l'égalité va pouvoir nous éclairer sur ce qu'elle voulait dire. Je ne vois pas en fait comment c'est faisable. Et puis, en fait, le fait d'augmenter à 50% le nombre de femmes dans tous les domaines, ça veut dire aussi baisser à 50% le nombre d'hommes dans ces domaines. Et puis, je pense qu'elle parlait plutôt des domaines de pouvoir. Je pense que c'est à ça qu'elle faisait référence.
Oui. En tout cas, c'est un débat qui se répand dans toutes les sphères de la société, dans le cadre de la Coupe du monde de foot féminin. C'est un exemple que je voudrais vous livrer, qui commence vendredi à Paris, au Parc des Princes. Les joueuses de foot d'Australie ont décidé de revendiquer des primes de match identiques à celles des hommes. Alors, elles ont saisi la FIFA sur ce sujet-là. Il y a certaines équipes qui repoussent cette tendance, et une joueuse française qui considère qu'elle n'est pas sensible à l'égalité des primes entre les hommes et les femmes, elle dit qu'il faut quand même rapporter cette logique à la logique de marché. Si nous, femmes footballeuses, on rapportait autant que les hommes, peut-être qu'on pourrait jouer un modèle équivalent de prime. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y en a qui freinent, il y en a qui avancent beaucoup sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Rebecca?
Je pense que si on rapporte toutes les questions liées à la société ou liées à l'égalité à des questions de marché, on ne va pas aller très loin. À un moment donné, il faut qu'on fasse un choix de société. Soit on fait une société qui est entièrement un focus sur le modèle économique qui est avec une recherche de profit, soit on fait un choix d'une société égalitaire. Et effectivement, parfois, c'est contraire aux règles du marché. Pardon, pas aux règles du marché, aux lois du marché.
Aux lois du marché, oui.
C'est un peu différent. Et pour ce qui est de la Coupe du Monde de football, ce qui est intéressant, c'est que pour cette Coupe du Monde, on a quand même le ballon d'or de cette année qui refuse de jouer parce qu'elle a demandé du coup à son pays, la Suède, une égalité des salaires entre les femmes et les hommes pour l'équipe de foot, et ce qu'elle n'a pas eu.
Oui.
Il faut qu'elle se batte pour ce type de choses. C'est extrêmement important.
Alors, par exemple, Chantal, voilà un exemple concret. Vous qui êtes encore en ligne avec nous, quel est votre sentiment là-dessus?
Revenu équivalent, c'est qu'effectivement, c'est pas très clair. Pas très clair si c'est vraiment tous les domaines. Moi, je suis pour l'égalité d'accès à ce qu'on choisit de pouvoir accéder aux études qu'on a envie de faire, au métier qu'on a envie de faire, et que c'est pas une question de société. Ah si, c'est une question de société, mais c'est d'abord une question personnelle. Mmh. Nous avons eu 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, la même éducation pour les 4. Ils ont 4 métiers différents, 4 façons de s'épanouir différentes, 4 engagements différents. Tout se met pas dans l'éducation et la société ne peut pas tout diriger. Après, il faut laisser le choix aux gens.
Oui, vous êtes rejoint.
Mais il faut que toutes les femmes puissent accéder aux études qu'elles choisissent, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes attirances. Il faut qu'elles puissent y accéder et qu'elles n'aient pas des barrières parce qu'elles sont une femme.
Alors voilà,
mais
il ne faut pas
imposer l'égalité nombre.
C'est intéressant. Conclusion des propos de Chantal, Réjeanne. Voilà, on nous laisse un cadre d'émancipation, d'épanouissement. Ensuite, on choisit en conséquence. Florence nous dit, je comprends la parité dans le travail, mais dans la famille, la parité ne compte pas. Le papa et la maman n'ont pas le même rôle. Et avoir un papa et une maman, ce sont deux choses différentes aussi. Réjeanne, pour conclure là-dessus.
Alors moi, je pense qu'il y a quand même une contradiction entre cette espèce de consensus sur le fait qu'on a individuellement à nous épanouir en dehors de tout carcan et dans une logique d'égalité. Mmh. Et dans le même mouvement, de dire, oui, mais il y a quand même des missions différentes ou des vocations différentes quand on est une fille ou un garçon. Pour moi, c'est contradictoire. C'est-à-dire que si on veut vraiment se donner les moyens d'être égaux, il faut qu'on arrive à créer des mêmes imaginaires et qu'on ne soit pas enserré dans des normes différentes. C'est-à-dire que les personnes qui croient éduquer de la même manière souvent leurs filles et leurs garçons ne le font pas. Et je dis ça en toute humilité parce qu'on est toutes et tous concernés. C'est-à-dire que est-ce qu'on va vraiment donner le choix à nos enfants de la manière dont ils s'habillent, de leur activité extrascolaire, de leur sport. On en parlait des filles dans le foot. Il y a beaucoup moins de licenciées filles. C'est pas parce que les garçons naissent avec un ballon sur le pied. On peut dire la même chose pour le rugby, pour la danse, pour les garçons.
Donc pensez qu'on est quand même encore un peu formaté et normé.
Bien entendu. On n'a qu'à regarder les livres pour enfants, nos films, la littérature classique. Donc moi, je pense que si on veut vraiment être à la hauteur de nos principes, et je crois qu'on est tous pour la liberté et pour l'égalité, enfin je l'espère, c'est plus dérangeant que ce qu'on l'on croit et il faut qu'on réfléchisse vraiment à se donner les moyens. Comme le disait Rebecca, de manière structurelle, on ne peut pas faire tout ça tout seul. C'est-à-dire qu'on peut faire, on peut bricoler individuellement, mais on a des structures qui sont à repenser. Je pense que là-dessus, j'espère que Marlène Schiappa, bien sûr, mettra en place des contraintes, mais travaillera aussi sur ces enjeux.
À tout de suite pour parler de la parité homme-femme, jusqu'à quel point peut-elle appliquer et peut-elle être appliquée dans quel domaine. Nail Live réagir au 39-21, Nayla, et nos invités sont encore avec nous jusqu'à 10h sur Europe 1.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau. La parité est-elle un idéal d'égalité? Quels sont encore les progrès à faire? Quelles sont les avancées aussi? Wendy Bouchard et ses invités.
Nous sommes 52% de femmes dans l'humanité, mais évidemment loin d'atteindre une parité. La problématique est mondiale, voilà pourquoi je donne ce chiffre aussi aux yeux du monde. Réjeanne Sénac est avec nous, directrice de recherche CNRS à Sciences Po, et Rebecca M. Salem. J'ai sous les yeux votre livre, Les Chroniques, les Glorieuses Chroniques d'une féministe, qui est issue en l'occurrence... d'une prise de conscience avec le mouvement du... Vous mettez le hashtag 3 novembre 11h44. Qu'est-ce que cela veut dire, Rebecca?
Alors, c'est un hashtag que j'ai mis en place, c'était il y a maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça. La première année, c'était en 2016. Et en fait, j'avais calculé le moment symbolique où les femmes devaient théoriquement s'arrêter de travailler parce qu'elles étaient moins payées que les hommes.
Ça tombait en novembre.
La première année, c'était le 7 novembre 16h34. Et donc après, ça a été repris un peu maladroitement comme un espèce d'appel à la grève, alors que pas du tout.
Visiblement, ça fait 2 mois de salaire en moins, par exemple.
Ça fait quand même beaucoup. Et après, je la réactualise tous les ans, en fait. Mm-hmm. Donc le 3 novembre 11h44, c'était en 2017. Et en 2018, c'était le 6 novembre 15h35.
Oui, on n'a pas beaucoup progressé. Hein.
Voilà, le moment théorique où les femmes devaient s'arrêter de travailler. Donc on voit que ça stagne quand même. Et en fait, je me suis inspirée du coup des chiffres d'Eurostat qui dit qu'il y a une différence de salaire entre les femmes et les hommes de 15%. Après, il existe plusieurs pourcentages qui mettent en évidence les inégalités de salaire. Le plus juste, à mon sens, et le plus flagrant, est une différence de 25%. Aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 25% que les hommes. On est en France, on est en 2019. Ouais, 25% de moins que les hommes. Ça veut dire que rien n'a été fait jusqu'à présent. Rien, en tout cas, de suffisamment efficace pour endiguer les inégalités.
Et de suffisamment contraignant, oui.
Voilà. Donc, du coup, ce qu'on a fait avec un certain nombre de membres de la communauté des Glorieuses, c'est qu'on a essayé d'identifier qu'est-ce qui avait été fait en termes de politique publique pour endiguer ces inégalités, notamment dans les pays où il n'y a pas autant d'inégalités de salaire. Et je parle notamment des pays nordiques. Et on a mis en évidence trois éléments qui permettraient d'endiguer vraiment très rapidement ces inégalités de salaire. La première, énorme scoop, de faire un congé paternité. L'écart de salaire se creuse entre les femmes et les hommes au moment du premier enfant. Aujourd'hui, au moment du premier emploi, c'est à peu près identique, selon les métiers évidemment, mais en règle générale, c'est à peu près identique. Et au moment du premier enfant, l'âge en tout cas, ça se creuse considérablement. Si jamais on ne met pas un congé paternité comme ce qui avait été proposé au Parlement européen et ce qui avait été stoppé par la France, on ne va pas y arriver. Il y a eu une proposition de faire en sorte que les hommes et les femmes aient un congé parental équivalent. Un peu comme en Suède, où ils ont un congé parental de 16 mois à se partager entre les deux parents, avec un minimum de 4 mois à prendre pour l'un ou l'autre.
Je rebondis sur cette première proposition et solution, Jeanne Sénac, parce que, un, il faut de l'argent, et deux, hélas, il faut faire un peu bousculer les mentalités. On n'est pas tout à fait prêt en France sur ce congé paternité pour vous, Jeanne.
Alors, c'est intéressant d'ailleurs, parce que la France, qui porte l'égalité femmes-hommes comme grande cause nationale,
décision du gouvernement,
voilà, a, dans le même moment, freiné une directive européenne sur le congé parental. Donc là, on voit quand même un problème entre la communication politique et les moyens qu'on se donne.
Parce que ça coûte cher ?
Parce que ça coûte cher. D'ailleurs, ça a été la déclaration d'Emmanuel Macron. Donc ce que disait Rebecca Anselem, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut comme choix de société et les moyens à mettre en œuvre pour porter l'égalité. Et les pays nordiques sont tout à fait intéressants là-dessus. Et ils montrent quoi ? Ce dont on parle depuis le début. C'est-à-dire cette idée de faire le lien. On dit souvent, ah ben non, mais les personnes ne veulent pas. Mais on voit bien que c'est une question de moyens. C'est-à-dire que c'est la femme qui va plutôt s'arrêter, tout simplement parce qu'elle gagne moins. Et aussi parce que la norme sociale est celle-là. Si vous permettez aux femmes et aux hommes de s'arrêter et que ce n'est pas d'implication économique différenciée et que ça soit aussi valorisé socialement, parce que les pères qui vont s'arrêter, s'ils s'arrêtent peu, ils sont perçus comme des héros. Mais si ça, vraiment ils prennent un congé parental long, oui, ils vont être un peu perçus comme des marginaux, hein, oui, ou dans l'évitement de leur boulot, hein, ce qui est quand même leur objet.
Comme des faibles, il y a aussi tout ce rapport.
Voilà, ouais, c'est compliqué.
Donc ils ne vont pas assumer vraiment leur rôle social. Donc là, on voit qu'il y a modifié nos imaginaires et nos normes, et que pour ça, des choix de politique publique de cette sorte, comme en Suède, qui sont assortis avec des gardes aussi, donc qui déconstruisent les stéréotypes et qui permettent aux hommes comme aux femmes de travailler dans les mêmes conditions, sont nécessaires. Donc là, je pense que c'est vraiment important de voir que la politique, c'est des choix politiques, mais c'est aussi des moyens à mettre en œuvre.
Très bien. Juste avant la pause, Rebecca, très rapidement, les deux autres solutions mises en œuvre par les pays nordiques qui pourraient nous inspirer ?
Alors, les deux autres solutions, c'est une transparence des salaires, le fait d'obliger les entreprises à avoir une transparence des salaires et que du coup, l'ensemble des employés de l'entreprise permettrait d'accéder à la grille de salaire. Et d'ailleurs, on a fait un sondage avec l'IFOP en novembre dernier qui montrait que 73% des Françaises et des Français étaient d'accord pour avoir une transparence des salaires. De la même manière que 63% des Français étaient d'accord pour avoir un congé paternité qui soit équivalent au congé maternité.
Troisième solution.
Et le dernier élément, c'est un certificat d'égalité obligatoire, comme en Islande, qui fait que, en fait, ce sont aux entreprises de prouver elles-mêmes qu'elles respectent cette égalité. Et à partir du moment où elles l'ont prouvé, leur est délivré un certificat qui leur permet ensuite d'accéder à un certain nombre d'éléments fiscaux.
Oui, moi très bien, merci. Voilà, petit tour de la question encore quelques instants. Naïla, je ne vous oublie pas au 39-21. Et puis on parlera aussi de la manière dont on doit revoir notre société sous le prisme homme-femme. Je pense en particulier, on avait un petit peu effleuré le sujet, Julie, dans une précédente émission, sur la médecine genrée. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a des traitements, par exemple, anti-cancer, qui sont exclusivement traités sur les hommes ou trop masculins, alors qu'on a aussi des pathologies très féminines qu'il faut savoir étudier avec une médecine plus féminine. Féminine, là, tout de suite sur Europe 1.
De la politique à la culture, de la santé à l'éducation, doit-on tout faire pour promouvoir l'égalité des sexes ? Wendy Bouchard.
Encore quelques minutes en compagnie de Rebecca M. Salem qui publie les glorieuses chroniques d'une féministe et qui diffuse sa newsletter Les Glorieuses chaque mercredi. Combien d'abonnés, combien de femmes sont touchées ? Femmes et hommes d'ailleurs peut-être ?
Alors femmes et hommes, il y a un peu plus de 115 000 personnes qui sont abonnées. Je crois qu'on a 118 000 personnes.
On peut s'abonner.
C'est gratuit. Il suffit d'aller sur lesglorieuses.fr et vous recevez votre email tous les mercredis dans votre boîte mail.
Très bien. La chronique du jour, en l'occurrence, sur quoi ?
Alors, la chronique du jour porte sur l'interdiction du droit à l'avortement aux États-Unis et surtout sur le silence assourdissant de deux entreprises, Facebook et Google, qu'on entend, j'ai l'impression, tous les quelques jours sur les questions d'égalité, les questions de femmes, et on a l'impression que c'est vraiment les entreprises les plus en avant sur ces questions-là. Et là, quand l'AFP leur demande quel était leur sentiment sur l'interdiction du droit de vote en Alabama, parce que c'est là où ils ont leur plus grand data center, donc leur centre de données qui fait fonctionner quand même ces entreprises, ben là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Alors qu'aujourd'hui, ces entreprises sont...
Droit à l'avortement.
Elles ne répondent pas. Elles décident de ne pas commenter le fait qu'il y ait l'interdiction à l'avortement en Alabama. Et donc, en fait, ce que je disais, c'était que aujourd'hui, ces entreprises ont un rôle grandissant à la fois en interne de leur structure, mais aussi vis-à-vis de la société.
Pour diffuser ce genre de
message. Ce sont des structures extrêmement puissantes et on en a besoin si jamais on veut endiguer cette hausse de l'interdiction de l'avortement aux États-Unis.
Neila est avec nous au 3921. Bonjour, je ne vous ai pas oublié, pardon, de vous prendre aussi tard à l'antenne. Bonjour Neila.
Bonjour.
Et merci de venir réagir. Alors, aux propos que nous avons tenus il y a un petit moment maintenant, mais qui vous ont fait réagir sur... on réagissait un peu avec Julie sur la programmation par la société, des tâches que nous devons faire, hommes et femmes, et ça vous a fait un peu bondir de chez vous.
Oui, surtout d'entendre ça en 2019. Donc, c'est Julie, hein, je m'excuse, qui a dit que donc, nous n'étions pas pareils, nous ne pouvons pas être égaux, et surtout que nous... femmes, nous serions programmées pour aimer, s'occuper de nos enfants, de notre intérieur.
Ah non, j'ai pas dit ça vraiment brutalement comme ça, mais bon. Oui.
Bon, moi je l'ai entendu comme ça, évidemment ça m'a fait sauter, bondir chez moi. Parce qu'évidemment, je pense au contraire, et vraiment là, je trouve que la phrase de Simone de Beauvoir est vraiment très juste, on ne naît pas femme, on le devient. Moi, je sais que j'ai deux enfants. On les a élevés, on va dire, un peu à l'envers, entre guillemets, de par les normes sociales. On travaillait tous les deux. Mais moi, c'est vrai que je travaillais beaucoup parce que je montais mon activité. Je n'ai jamais cuisiné. D'ailleurs, j'ai même été élevée comme ça. Je suis pas du tout une femme d'intérieur. Moi, mon compagnon adorait justement s'occuper des enfants. Il les emmenait aux activités. Il prenait les rendez-vous chez le médecin. C'est qu'il y a peu de pères qui font ça aussi.
Vous étiez un peu à rebours des codes du moment, quoi.
Ben oui, puis je vois, on a deux filles, ben ça pose pas de problème, et c'est vrai que moi j'aurais été, mais vraiment malheureuse à être femme au foyer. Et puis même avant d'avoir des enfants, les enfants m'intéressaient pas plus que ça. C'est vrai qu'au niveau des métiers genrés, comme disait votre intervenante, sur le fait qu'on est plus doué dans les soins, dans l'aide à la personne, sur les métiers avec les enfants, c'est complètement faux. Il y a des hommes qui sont parfaits, même regardez sur les maîtres d'école,
Bien sûr, c'est que la société, elle disait que la société nous guide dans ces métiers genrés.
Oui, c'est ça.
Évidemment, c'est pas son sentiment. Oui, Réjeanne, sur ce côté normatif et sur l'exemple de Neila qui a fonctionné à rebours et qui en est très, très heureuse, mais là, c'est la liberté de chacun.
Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'elle dit elle-même qu'ils avaient conscience d'être dans une logique exceptionnelle. Ils étaient à rebours. Je pense que l'horizon d'une société à la fois juste et heureuse serait une société où on n'a pas l'impression de devoir s'opposer à des normes, à des jugements.
C'est ça, on n'y est pas encore.
Voilà, mais on n'y est pas encore. Mais je pense que c'est celui-là l'horizon. Et c'est pour ça que mon ouvrage, je dis de manière pas très consensuelle, le sous-titre, c'est « Osons nous imaginer et être semblables » pour reprendre Hannah Arendt, qui dit que le propre de l'homme, c'est de s'imaginer soi et les autres comme des semblables. S'imaginer comme des semblables, c'est avoir conscience qu'individuellement, nous sommes tous différents, mais qu'il ne faut pas que nous enfermions les autres et nous-mêmes dans des normes, des stéréotypes qui nous contraignent. Donc pour ça, bien sûr, il y a un parcours individuel, mais avant tout un parcours et une déconstruction qui doit être collective et politique.
Merci à toutes d'avoir pris la parole. Neila, je vous salue. Merci pour ce petit commentaire et cette expérience personnelle. Je remercie Rebecca M. Salem. Je suis vraiment navrée de ce qui vous est arrivé avec ce taxi qui s'est perdu et ce parcours du combattant. Mais vous étiez là, c'était l'essentiel. La newsletter Les Glorieuses, vous pouvez vous y abonner. Et votre ouvrage Les Glorieuses, chronique d'une féministe féministe aux éditions Ebec. Quant à Réjeanne Sénac, je recite votre ouvrage, L'égalité sans condition, et vous le disiez, osons imaginer et être semblables aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci beaucoup mesdames.
Merci.
Pour ces échanges sur ce sujet paritaire. Dans un instant, on va plonger ensemble dans la Provence de Marcel Pagnol, très beau documentaire qui est dédié à l'auteur et réalisateur, écrivain évidemment et académicien Marcel Pagnol, ce soir sur France 3. On lui dédie cette émission jusqu'à 11h à suivre. À tout de suite Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.